Nous méditons aujourd'hui le premier mystère glorieux, et c'est très bien que nous puissions le faire le jour, pendant la semaine de la résurrection, le cinquième jour de la Pâque, oui, c'est bien. Notre souci, ce n'est pas de récapituler ce que nous pouvons savoir par les Saintes Écritures, mais c'est d'essayer d'approfondir grâce à Marie, grâce à l'Immaculée, c'est d'essayer d'approfondir grâce à la doctrine infaillible de l'Église aussi et des saints, c'est d'approfondir ce qu'il y a à l'intérieur du mystère de la résurrection. Les Saints Évangiles, la Sainte Écriture sont une révélation qui demande à notre foi de venir par-dessous pour découvrir le cœur de la foi lumineuse de l'Immaculée et au fond de la foi de la Jérusalem spirituelle toute pure qui lui permet de découvrir, de voir se révéler sous ses yeux, dans sa chair, dans son sang, dans son esprit et dans la grâce qui lui est faite, le mystère. C'est-à-dire la réalité vivante et expérimentée de la résurrection. Jésus ressuscité d'entre les morts, ça nous le croyons, hein, c'est sûr. Alors nous avons évidemment dans la Sainte Écriture, on est d'accord, toujours, toutes sortes d'indices, parce que le Saint-Esprit parle à travers la révélation, de manière juste. Et nous allons demander à Saint-Esprit, nous allons demander à la puissante intercession du cœur glorieux, immaculé, douloureux de Marie, de nous faire rentrer dans ce que l'Esprit Saint se dévoile à lui-même dans le relèvement de la résurrection du Seigneur, le relèvement de son humanité séparée. On va demander ça. Méditer un mystère du rosaire, c'est toujours un miracle. Et à chaque fois que nous disons le rosaire, il faut demander ce miracle. Et les mystères du rosaire sont des trésors qui viennent du ciel et qui viennent miraculeusement se manifester à nous. Et c'est un don de Dieu. Et il faut à chaque fois le demander, il faut à chaque fois le désirer très fort. Il faut avoir cette grande anxiété de pouvoir être à la hauteur du don, de la méditation et des abîmes ouverts par le mystère en question, puisqu'il nous est donné pour nous transformer et pour transformer le visage intérieur de Dieu par rapport à nous et notre visage intérieur par rapport à Dieu. À chaque mystère, une transformation se réalise. Et s'il y a une transformation tout à fait extraordinaire, c'est celle du mystère de la résurrection. On ne peut pas faire une transformation plus grande que cet état complètement incroyable de mort, quoi, d'anéantissement, qui a eu lieu pendant ce vendredi saint, ces 36 heures de mort absolue de Jésus, du Christ, du Dieu vivant dans une... Et puis la résurrection, ce relèvement. Alors bon. Ce que nous voulons aussi, c'est d'être caché à l'intérieur de la lumière toute claire de Marie, hein, de Marie. Marie est au cœur de la résurrection et de la Pâque du Seigneur. Ça, c'est clair. Et l'évangile, par exemple, qu'on vient d'entendre, comme c'est simple, vous voyez, il y avait 153 poissons. Il y avait 153 poissons. C'est formidable, hein? Vous voyez, cet passage extraordinaire de la solitude de la mort à la plénitude de communion de la très sainte Trinité, passage de 1 à 3, en passant par 5. En passant par 5. En passant par Marie, quoi. Marie, 5, vous savez, on sait très bien que 5, c'est, dans la Bible, c'est Marie, c'est l'Immaculée Conception. Vous avez tous les principes divins, tous les principes incréés, tous les principes surnaturels créés sont présents et passent par Marie qui devient le principe de tous les mystères divins. C'est extraordinaire, c'est... Oui, l'Église, c'est ça, l'Église de Pierre, l'Église de la Résurrection. Il y a 153 poissons parce que c'est tous ceux qui vivent de cette solitude de la mort et de la résurrection du Christ qui s'épanouit en Marie et du coup rentre dans la plénitude de communion trinitaire. On passe de 1 à 3 en passant par Marie. C'est le résumé de l'Église de la Résurrection. Le corps mystique de Marie, quoi. C'est bien ça ce qu'on vient de lire. Mais il y a aussi, il y a plein de choses... Il y a plein de choses qui... On le sait bien que Marie est une source, source du Messie. C'est dans sa virginité qu'elle conçoit, qu'elle fait naître tous les mystères du Messie. Du Messie crucifié, du Messie glorifié aussi. Voilà, et ça c'est sûr. Regardez, une chose qui est très réjouissante, je trouve, c'est ce fait que... Quand Jésus apparaît, sa première apparition, le premier mot que la Haggadah de la résurrection donne, c'est le nom de Marie. Première apparition. À Madeleine, Jésus dit Marie. C'est le premier mot révélé de Marie, dit Marie. Jésus ressuscite en premier pour Marie et pour le Père, mais pour Jésus crucifié, le Père et Marie sont devenus indissociables, quoi. Comme ils ont toujours été indissociables dans l'incarnation, il y a quelque chose de tout à fait semblable dans le mystère de la résurrection, le mystère de l'incarnation de ce point de vue là c'est ce que nous voudrions approfondir. Regardez. Deuxième apparition, Jésus dit, Kyrie, je vous salue. C'est extraordinaire. Je vous salue, Marie. C'est vraiment étonnant, quoi. Je vous salue, Marie. Et puis, il y a cette apparition, Jésus. Et si on suit les apparitions de Jésus, c'est ce déploiement que nous avons regardé, qui en fait était une prophétie de la résurrection, qui passait par la voie incarnée de plusieurs messagers, l'ange Gabriel, Élisabeth, Jean-Baptiste. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Et c'est Jésus ressuscité qui, à travers la Haggadah de la résurrection, le prononce en toute réalité incarnée et glorieuse. À l'univers, à la création. Il leur reprocha leur incrédulité et leur lenteur à croire. C'est apparu la deuxième fois aux apôtres, disciples. Il leur reprocha leur incrédulité, leur lenteur à croire. Et il a dit, allez proclamer la résurrection à toute la création. À toute la création. Voilà, toutes ces paroles s'adressent à Marie, vous comprenez bien, à l'Immaculée en lien avec le corps mystique de la Jérusalem spirituelle. Mais il va falloir approfondir ce grand message, cette grande réincarnation glorieuse à partir de la foi de Marie que constitue le mystère de Pâques. Et ça, c'est pour ça que c'est un mystère du rosaire. C'est parce que vraiment ici il y a une naissance nouvelle qui vient de la mère du corps mystique entier vivant de Jésus entier. Il va falloir vraiment regarder ça, demander au bon Dieu de nous aider à dire, à voir les choses de manière parfaitement juste. Regardez, il y a ce fait que Jésus dit à Marie, ne t'accroche pas à moi, ne me touche pas, Je ne suis pas encore remonté vers mon père. Cette parole, c'est pour faire comprendre ce qu'à l'instant de la résurrection, Jésus exprime de manière incarnée et glorieuse en ressuscitant Marie, en ressuscitant pour Marie, en ressuscitant, en manifestant sa résurrection à la mère de la gloire éternelle de la Jérusalem glorieuse. Toutes ces paroles, c'est une très belle méditation du reste de faire ça, de regarder toutes les paroles que Jésus prononce, montre en contraste, en négatif, ce que le Jésus fait dans la foi surnaturelle et vivante de l'Immaculée. Quand avec les pèlerins d'Emmaüs, Jésus va rompre le pain. Il va rompre le pain. Les pères de l'Église ont considéré que cette parole qui exprime que dans l'évangile de Saint-Luc, Jésus marche avec Saint-Luc et Saint-Cléophas, et puis il leur parle des Écritures, leur cœur était tout brûlant. Il faut reconnaître toujours à chaque fois, faire cet effort, de comprendre que Jésus veut révéler ce qui se passe à l'infini, enfin presque... dans le mystère du rosaire vivant, de la Jérusalem spirituelle que Marie va engendrer dans les 153 poissons jusqu'à la fin du monde, par la foi de la résurrection et se manifestant la création tout entière, ça passe par l'Eucharistie. Ils auront le pain. Les pères de l'Église ont considéré que c'était vraiment une messe avec une consécration et avec la présence transsubstantiée du corps glorieux de Jésus qui a été donné. Vous croyez quoi? Je tire moi personnellement de là quelque chose de tout simple. Ce qui est bien évident que Jésus ne s'est pas contenté de donner comme ça le pain eucharistique, de célébrer par lui, prêtre glorifié, avant l'ascension, uniquement à ces deux-là. Forcément, bien sûr, nous avons rompu le pain avec lui, nous avons mangé ensemble. Et tout ce que nous disons là, c'est quelques signes, ne laissent pas la place à une multitude de beaucoup d'autres apparitions et de signes que Jésus ressuscité a fait avec nous. C'est ce que dit l'Évangile. Jésus ressuscité. Et il n'a pas eu que cette apparition. C'est la Haggadah de la résurrection qui nous donne cette grande manifestation. Vous en donnez pour que vous croyez. Mais il s'est manifesté avec d'innombrables, beaucoup d'autres apparitions. Il a marché avec ses disciples, il a mangé, il a bu avec eux, il a célébré au moins une fois avec les apôtres et avec l'Immaculée, ça je le pense très volontiers aussi. Il a célébré glorieusement l'Eucharistie. Ça, est-ce que c'est ce pain brûlant, ce sang qui sort de sa bouche dans le calice, ce sang glorieux qui sort et descend dans le calice. Il a partagé son corps et son sang avant de monter au ciel. Oui, c'est... Il faut sentir toutes ces choses. Il faut sentir toutes ces les moindres paroles. L'évangile de saint Matthieu dit ceci. Alors, il y eut un grand tremblement de terre. Voici que les femmes s'apprêtaient à porter les parfums. Et voici qu'il y eut un méga séisme. Un séisme, attention, c'est pas rien. Un séisme, c'est pas un petit truc, un séisme. C'est pas un petit bout, et puis ça s'arrête. Un séisme. Séisme, c'est pas le petit tremblement de terre. Mais alors, attention, séismos méga. Mégas. Il y a eu un séisme extraordinaire, méga séisme. Et un ange est descendu avec la puissance de la foudre. La pierre a été soulevée. Déjà, il y avait eu un tremblement de terre pour la mort de Jésus, qui avait arraché les colonnes du Saint-Dessin, déchiré le voile. Et un deuxième tremblement de terre, celui-ci, il est mégas, séismos, cette fois-ci. Cette fois-ci, il y a le qualificatif qui montre que c'est encore plus fort, quoi. Ce séisme est étonnant. De nombreuses personnes à Jérusalem devaient dormir. Il n'était pas 4 heures du matin, mais les femmes étaient là. Il y a eu cette espèce de grand, ce méga séisme, ce séisme étonnant. Mais ce séisme étonnant, ce séisme majeur, ce séisme métaphysique, ce séisme qui touche la terre vierge de Marie, quoi, a été totale, quoi. Elle a été la première à connaître la manifestation glorieuse dans sa terre vierge de la résurrection. Bien sûr, ça s'est manifesté par ce séisme pour qu'on puisse comprendre. Il faut lire toute la Gada de la résurrection dans cette perspective que Jésus demande, que le pape demande aujourd'hui, de comprendre. C'est un mystère du rosaire vivant. C'est un mystère de Marie. C'est à partir de cette unité profonde de l'Immaculée de Jésus Joseph que nous pouvons rentrer dans la très sainte Trinité, ce glorieuse de ce mystère. Alors vraiment, si bon Dieu pouvait nous aider à pénétrer un peu plus. Il y a, je ne résiste pas à la tentation de vous lire un petit passage qui a été écrit par Adrien von Speer. Qui résume un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Et avec elle, et après, avec l'Église, on va pouvoir rentrer dans la méditation du mystère. D'abord, il faut bien comprendre une chose, c'est que la disposition profonde pour rentrer dans ce mystère, c'est la foi. C'est vraiment la foi. La foi est dans l'obscurité profonde de toutes les intériorités divines. Et du dedans, une lumière resplendit. Dans cette lumière, nous assistons à la résurrection. Et c'est cette attente de cette lumière dans l'obscurité profonde de toutes les lumières divines incréées en nous que nous attendons. Ce surgissement de la lumière surnaturelle de la foi pour voir la résurrection. C'est la disposition préalable pour entrer dans la méditation de ce mystère. Il faut faire ces actes de foi tranquille, serein, océanique, d'obscurité absolue et de lumière jaillissante, pour que de l'intérieur cette lumière surnaturelle jaillissante des profondeurs de l'obscurité des intériorités divines en nous illumine notre intelligence et qu'il n'y ait plus que Jésus de l'intérieur de Jésus en nous. C'est ce que fait la foi fait ça. Et une fois qu'on est dans l'intérieur de Jésus, il n'y a plus que Jésus de l'intérieur de Jésus. Je suis dans la disposition dans laquelle était Marie à l'instant de la résurrection. Alors, le séisme magnifique de la résurrection a bouleversé toute la terre mariale. Notre terre à nous. Notre monde. Je suis la résurrection. Alors, on va demander. Alors, qu'est-ce que. C'est pour donner un exemple de méditation. C'est quand même un médecin protestant de féminin. Alors, le matin de Pâques, Marie goûte encore jusqu'à la lie le vide et la ténèbre. Pourtant, elle sait que Jésus est Dieu et que, comme Dieu, il survivra à toute destruction et à toute mort. À l'aurore de ce jour-là, comme jadis à l'apparition de l'ange, elle n'est de nouveau que pure attente. Elle ne s'attend pas à une apparition précise, mais sa foi est si ouverte, si disponible, que toute apparition venue du Christ pourrait lui advenir, quelle qu'elle soit. Voilà que son Fils se présente à elle, de l'intérieur même d'elle-même. La gloire divine fulgurante remplit les espaces de sa foi d'une plénitude qui dépasse toute pensée, tout désir. Et ne remplit pas seulement le vide qui est en elle, mais il le comble absolument, comme la divinité déborde toute attente humaine. Son premier oui, je m'aime, 33 ans, plutôt 36 ans en fait, elle avait pu le former elle-même. Ce premier oui, 33 ans plutôt. Elle avait pu le former elle-même et l'exprimer dans le chant du Magnificat. Ce nouveau oui de la résurrection. Et son nom. Parce qu'il débouche et qu'il est agissant dans le oui éternel de Dieu lui-même. C'est comme un fleuve dans la mer où elle se noie et s'engloutit. À présent, c'est un cri de jubilation au-delà de toute parole et de tout chant. Elle est entourée de toutes parts, illuminée jusqu'au plus intime par la lumière brûlante de son Fils. Voilà sa vision du passage de la résurrection, dans une évidence qui illumine tout. La passion et sa plaie béante ne laissent plus en elle la moindre trace d'ombre. Elle se dilate au contraire et surabonde joyeusement, immensément, à Pâques, l'unité d'existence de Marie avec le Fils est telle que dorénavant, ils ne peuvent plus être corporellement séparés, ni spirituellement, ni glorieusement. Là où le Fils est essentiellement, là où le Fils est actuellement, là où le Fils est véritablement présent, la mère s'enracine aussi avec lui et s'écoule. Elle n'en peut plus être absente. Comme elle a dit oui à l'incarnation du Fils, la voici emportée aussi à accompagner toute nouvelle venue du Seigneur sur la terre. Dès cet instant, elle l'accompagne en toutes ses messes futures, toutes ses absolutions à venir, toutes ses présences qui relèvent, toutes les jubilations d'éternité que le Christ ressuscité dépose de là, dans les cœurs qui s'attacheront à lui. C'est admirable. Pour quelqu'un qui a reçu le baptême protestant, je trouve que c'est bien. Alors, nous qui sommes catholiques, allons plus loin. Si Dieu le veut, si Dieu le permet. Elle est passée à la plénitude de l'Église, bien sûr. Apostolique, vous l'imaginez bien. Lorsque la foi immaculée de Marie est rentrée à l'intérieur de l'éternité divine, que sous l'ombre du Saint-Esprit, l'ombre du Père, la puissance de Dieu, elle a été comme saisie, enveloppée, et du dedans de cet anéantissement en Dieu, la supervenue du Saint-Esprit l'a fait pénétrer glorieusement et miraculeusement à l'intérieur de l'éternité, et que du coup, sa foi, son oui, où elle conçoit l'incarnation de Dieu dans sa chair, en disant oui, se réalise de l'éternité dans son corps assumé dans la gloire pour cet instant de l'incarnation, nous savons bien qu'à ce moment-là, la foi de Marie a pénétré dans cette lumière jusque dans l'éternité divine. L'éternité divine a donc été comme tout attentive et s'est toute rassemblée dans la lumière sénatale de la foi de Marie, et du coup le Verbe de Dieu a regardé toute son humanité à travers elle et s'est incarné. Premier mystère joyeux. Le Verbe est devenu chair. Oh, c'est beau ça. Comme c'est grand, parce que dans la résurrection, déjà au moins ça, si on peut retenir ça comme ce serait beau, c'est la chair, le sang vivant de Jésus, l'âme glorifiée de Jésus, le relèvement de Jésus. C'est toute l'humanité glorifiée de Jésus qui se saisit de tous les temps, de tous les lieux, et toute la création dans cette fulgurante traversée de la résurrection se rassemble dans le cœur immaculé de Marie pour se faire Dieu. C'est la chair glorifiée de l'humanité tout entière qui devient le Verbe de Dieu. Le Verbe s'est fait chair, on peut dire ici, la chair glorieuse assumée par la gloire de la résurrection se fait Dieu, s'engloutit dans l'océan de la toute-puissance de Dieu et devient Dieu. Jusque-là, la chair, le corps, le sang de Jésus, en raison du mystère de la grâce capitale du Christ, avait repoussé l'absolue perfection de l'actuation incréée de Verbe de Dieu dans sa chair et son sang, à cause du mystère de la croix. C'est dans la résurrection, toute la chair du Christ, glorifiée, ressuscitée, devient le Verbe, devient Verbe de Dieu. Devient Verbe de Dieu. Le Verbe s'est fait chair, premier mystère joyeux, premier mystère glorieux. La résurrection devient Dieu lui-même. C'est la foi de Marie qui a permis cela. C'est la foi de l'Église qui a permis ça. Dieu, dans tous les mystères de sa rédemption, dépend de la foi. Il ne fait rien sans l'amour et la coopération dans une grâce d'affinité avec la lumière sénatoriale de la foi à l'état pur. Et donc, sans elle, il n'y a pas de mystère du rosaire sans la foi. Dieu n'a rien fait par sa toute-puissance. Il a tout fait par amour. Dans l'incarnation de son Messie. Et le mystère de la résurrection aussi, comment cela a-t-il pu se faire? Comment cela a-t-il pu se faire? Dans l'Évangile, il y a deux mots pour expliquer le mystère de la résurrection. En grec, la Agada de la résurrection s'est écrite en grec, et l'ange, quand il annonce aux femmes, dit: mais vous cherchez Jésus? Vous cherchez Jésus? En français, on dit le crucifié. Il n'est pas ici, Ude Ekestin. Il n'est pas ici, Ude Ekestin. Il n'est pas ici. Vous cherchez Jésus? Traduction analytique, c'est tout à fait différent. Vous cherchez Jésus dans l'état de crucifixion. Mais il n'est pas dans l'état de crucifixion. Il est ressuscité. Il est dans l'état de résurrection. C'est différent quand même. Où est Augustine? Il n'est pas là. Il n'est pas dans cet état. Et dans l'état de résurrection, regardez les vêtements. Il était là. Un ange, Stolen Leiken, habillé en habit sacerdotal, immaculé. Stolen Leiken. Il avait les tôles, en habit sacerdotal. Un à droite, un à gauche. Il avait l'aspect de l'éclair. Ici, pas ici. Et Gerthe, il est ressuscité. Et Gerthe, il est ressuscité. C'est le premier mot grec. Egersis. Egersis, la résurrection. Mais c'est pas le seul mot. Et dans le texte en français, faut pas s'en inquiéter, à chaque fois il dit il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Et c'est jamais le même mot en grec. Dommage hein, qu'on n'ait pas les deux mots. Hein. Parce que, elle dit à un moment, je me suis dit, attends, voilà, ne fallait-il pas que le Christ ressuscite dans la gloire? Anastaste, il est ressuscité. Saint Pierre le proclame, celui que vous avez crucifié, il est ressuscité. Anastaste, Anastasis, Anastasis, résurrection. Egersis, Anastasis. Ça vous savoir ça par cœur. Egersis, Anastasis. Il est ressuscité, résurrection. Quelle différence? Qu'est-ce qui se cache derrière ces deux mots que dans toutes les langues on traduit par un seul mot et que dans l'écriture donne deux mots. Pourquoi cacher? Pourquoi le cacher? Saint-Esprit est extraordinaire hein, dans la Sainte Écriture, comme il aime à cacher les choses. Mais dès que c'est nu, il y a deux mots. Enlevez le vêtement de la traduction et vous trouvez à nouveau les deux mots. Dévoiler les écritures. Egersis, Anastasis. Eh bien, Egersis, c'est que Jésus est Dieu. Et la toute-puissance intime et éternelle d'avant la création du monde qui saisit le corps mort de Jésus attire l'âme toute glorifiée, reste toute glorifiée, parce qu'il ne faut pas oublier que l'âme séparée et morte de Jésus est toute ressuscitée, elle est toute glorieuse. Ça fait 36 heures que l'âme de Jésus est dans la résurrection. Elle n'est pas ressuscitée dans la chair, mais elle est glorieuse. Elle est glorieuse. Et elle enflamme tous les lieux de la mort, créant ainsi le diaphane merveilleux, amoureux, flamboyant du purgatoire. Et de l'entrée dans le parvis. Et la divinité incréée d'avant la création du monde qui saisit toute l'âme glorifiée de Jésus, toute ressuscitée, toute glorieuse, toute la lumen gloriée qui doit envahir tous les océans de l'intimité sans limite de Dieu le Père au ciel est là, toute resplendissante dans le lieu de la mort, en son âme, à l'intérieur de l'âme de papa, du Père humain, tout. Ainsi toute glorifiée elle-même avec lui. Dieu le Père et Dieu le Fils se rejoignent, fulgurant l'Esprit Saint. Nous l'avons vu, ça, dans le dernier mystère. Et Dieu, c'est Dieu qui est dans le corps mort de Jésus séparé. Et c'est le même Dieu qui est dans toute la gloire de la résurrection, qui est dans l'âme de Jésus. Et c'est le Dieu qui est dans le corps, qui attire et qui fait venir toute la gloire éternelle de la gloire de la résurrection de l'âme de Jésus dans les lieux de la mort de tous les temps et de tous les lieux, et qui l'attire et la ramène dans le temps de son corps, dans le sépulcre. Et c'est ce Dieu qui fait vivre le corps de Jésus mort et qui se saisit en le ramenant encore une fois dans le temps, si je puis dire, l'arrachant à nouveau de l'évoum et de la gloire, il le ramène encore dans le temps de la situation cadavérique de Jésus pour le relever, pour pour le faire revivre. C'est Dieu lui-même, le Fils, lui-même, le Verbe de Dieu, qui s'est lui-même ressuscité en partant de son corps mort. Alors, son âme est revenue et la forme glorieuse de ce corps est venue glorifier le corps exercice. Mais comme l'âme glorieuse de Jésus avait pénétré dans tous les lieux de la création et de la mort, eh bien, le corps de Jésus se relevant a fulguré. Il a fulguré, et c'est ça l'exercice. Il a traversé tous les temps et tous les lieux. Tout le cosmos du corps divin de Jésus, glorifié dans la gloire, brûlant de la gloire de cette fulgurante, extraordinaire relèvement, a traversé tous les éléments de matière. Pourquoi est-ce que nous disons ça? Je vous fais remarquer qu'il était dit dans la Torah que nul ne peut croire, ni saisir, ni être saisi par une réalité divine accordée en trésor aux pauvres par la foi, sans qu'il y ait le témoignage de d'au moins deux témoins. Qui a été témoin de la résurrection? Je m'excuse, mais pour l'instant de la résurrection, qui est témoin de la résurrection? Vous pouvez lire l'Écriture, vous verrez qu'il n'y a aucun témoin. Aucun. On voit bien des soldats qui disent ben, avant qu'on tombe dans le coma, il était là, et après. On a bien vu un tremblement de terre méga, mais. Etc. Bon. Mais personne n'a vu. Il y a deux témoins. Remarquez bien. C'est très intéressant, ça. C'est beau, en plus. C'est significatif. Il faut comprendre. Les deux seuls témoins de la résurrection, c'est le monde minéral. Il était enfermé à l'intérieur d'un rocher. C'est le monde minéral a été témoin. Il était lui-même étendu sur... Et il y a un deuxième témoin, c'est le suaire qui le recouvrait. D'ailleurs, quand Jean rentre avec Pierre dans le sépulcre, il voit le tombeau, c'est-à-dire le minéral, et le suaire, alors il croit. C'est en voyant les deux témoins qu'il croit. C'est quoi ces deux témoins? C'est beau ça, vous savez. Celui qui comprend pas que c'est Marie qui se cache derrière, c'est que il est pas très fêté, quoi. Mais on peut prier pour lui. Bien sûr. Le corps, on le sait très bien. Depuis qu'on est né dans la Bible, depuis 3700 ans, tout le monde sait que le symbolisme extraordinaire du rocher fondu, du creux dans le rocher, de ce minéral ouvert, représente la blessure du cœur de Jésus. La blessure d'un corps qui est devenu inanimé, cadavérique, mais qui garde une unité parfaite et divine. C'est ça le témoin. Le premier témoin, c'est ce qu'il y a de plus physique dans ce qui appartient au Verbe crucifié dans le corps de Jésus mort. Il n'y a aucune vie. C'est purement. Il n'y a aucune vie végétative. Il n'y a pas de vie de plante. Il n'y a qu'une réalité minérale. Le corps cadavérique du Christ. C'est le roc. Tu es mon roc. Le Seigneur est mon rocher. Mon royaume, ma citadelle, mon appartement. Fais-moi rentrer dans le creux du rocher. Et une fois qu'on est rentré là, effectivement, Marie est toute entière dans l'obscurité de toutes les intériorités divines, obscures, dans laquelle elle a été établie, et dans le mystère de la mort de Jésus, elle est toute attentive. attentive à ce qui se passe à l'intérieur de Jésus. Dans la blessure du cœur, l'eau, le sang et l'Esprit Saint. L'Immaculée Conception est le témoin de la résurrection. Parce que l'Immaculée Conception s'origine dans la blessure du cœur de Jésus. Depuis que Jésus est mort, elle est engloutie dans la chambre où sa mère l'a conçue, dans l'unité profonde d'une passivité substantielle d'amour des deux personnes de la très sainte Trinité, l'Esprit Saint et le Verbe, disparaissant ensemble dans la blessure du cœur pour faire la fournaise ardente de l'Immaculée Conception. Elle-même s'y introduit, elle s'y établit. Et quand on a roulé la pierre, on peut dire qu'elle était dedans. Que la lumière sénatoriale de la foi la faisait pénétrer non pas au ciel, mais là. Et c'était le ciel. Puisque c'est l'Esprit Saint. Et le Verbe de Dieu disparaissant ensemble dans l'unité de deux personnes incréées. Dans le monde ouvert d'un monde minéral fermé à tous les hommes. Mais ouvert à l'Immaculée. C'est ce que nous avons vu ça la dernière fois. Le suaire, c'est un tissu. D'après les 613 préceptes de la Torah, lorsque on fait la liturgie des funérailles, c'est la femme qui tisse le vêtement du tombeau. C'est la femme qui tisse le suaire. Hein. C'est Marie qui a tissé. On est obligé de le penser, on est obligé de le croire, parce que Jésus, Marie, Joseph ont accompli tous les préceptes de la Torah. Ils ont été écrits pour eux. Et donc, c'est elle qui a tissé le travail de la femme. Le suaire représente le travail de la femme. C'est pour faire comprendre, et le suaire a été marqué, la fulgurance de la résurrection, le suaire en a été le témoin. C'est quoi le travail de la femme qui est cachée derrière cette significative évocation qu'on trouve dans l'évangile, qu'on trouve encore dans la confrontation du monde scientifique d'aujourd'hui sur le suaire, qui est marqué, témoin. La fulgurante, isotopique et chaleureuse présence de la résurrection marquée, témoignant encore le travail de Marie. Nous l'avons vu la dernière fois dans le cinquième mystère douloureux. C'est un travail extraordinaire, ce travail qui s'est réalisé dans les 36 heures du grand sabbat. Ce travail par lequel Marie a tissé dans le cœur ouvert de Jésus un lien très extraordinaire dans une trame parfaite entre toutes, entre les apôtres, entre tous ceux qui étaient dans les limbes, notamment son époux, la très sainte Trinité, Jésus mort, Jésus glorifié. Et avec cette trame, elle a trame. C'est réaliser le mystère de la transverbération et de la transpiration dont nous avons parlé la dernière fois. Vous savez, pour faire un tissu, il faut que ça croise. Hein. Ça, j'avais déjà vu, je sais pas, quelqu'un qui fait du tissage comme ça en Afrique ou ailleurs. C'est trop beau. On fait passer un fil. On fait passer un fil. C'est extraordinaire, le fil de Marie qui tisse le travail de la transverbération dans tout le tissu de l'enveloppement du mystère de la résurrection, du corps mystique vivant, de Jésus vivant et entier. Ce grand travail, la transverbération qui était pour elle, mais elle avait passé la navette de cette transverbération qui était en elle pendant ces 36 heures dans la trame de la vie, de la chair, du sang, de tous les élus. De toute création. Et c'était cette attente, ce travail qui s'est fait dans la transverbération est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Il s'est réalisé vraiment. Et c'était ça son attente. C'était ça son attente, c'était ça sa foi, c'était ce qui lui était demandé. Je trouve ça admirable. cette transverbération a réalisé à l'intérieur de Marie, au fur et à mesure, une incarnation de plus en plus physique, de plus en plus concrète, de plus en plus biologique, on pourrait dire, de plus en plus incarnée, disons-le, de cette plaie du cœur de Jésus, de ce glaive qu'il a traversé de part en part. Per transhibit gladius, et a traversé sa chair, son sang, son corps, son esprit, son âme, sa source de grâce adoptante pour tous les hommes du monde qui doivent être sauvés. Tout a été transversé corporellement par le glaive du Verbe subsistant, crucifié. Et Jésus a attendu ça. Pourquoi Jésus a-t-il dû attendre 36 heures pour ressusciter d'entre les morts? C'est que pendant 36 ans, il a vécu sur la terre avec Marie, Joseph. Et ces 36 heures sont pour vivre de cette heure de la résurrection. Et c'est pourquoi ces 36 ans sont récapitulés dans ces 36 heures. C'est un signe que Joseph est par là aussi. Hein, on commence à s'habituer. Hein. Parce que, je vous dis, c'est vrai, Joseph est par là. C'est évident que Joseph est par là. C'est trop clair. On faut pas quand même pas oublier que faut quand même pas oublier que quand l'âme crucifiée toute glorieuse de Jésus rentre dans l'âme toute crucifiée et séparée du papa, que cette charité de deux âmes lumineuses toute glorifiée dans l'unité profonde de Dieu le Père et de Dieu le Fils ont disparu dans cette gloire. Je suis sûr que Jésus glorifié, dans Joseph glorifié, dans son âme, ont disparu tous les deux, puisque Dieu le Père et Dieu le Fils ne cessent de disparaître l'un dans l'autre, mais ici, à travers cette disparition de Jésus et Joseph, en un. Et quand Joseph disparaît, il a tellement l'habitude de disparaître, depuis que Jésus est dans le sein de Marie. Il disparaît dans l'unité sponsale, dans la chair. Corporellement, c'est ça qui se passe pour Joseph. Dans la chair et le sang de sa moitié sponsale, tout obscur, dans le tombeau de l'Immaculée Conception. Et c'est dans sa chair et son sang que le glaive de la gloire pénètre dans la blessure du cœur de Jésus s'inscrivant en Marie d'un seul coup. Mais c'est cette gloire qui vient de l'unité sponsale glorieuse et active de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Joseph glorifié par Jésus dans sa croix glorieuse, dans le corps de Marie. Mais où dans le corps de Marie? Dans la transverbération. Où dans la transverbération? Dans la blessure du cœur qui a ouvert très largement un espace immense, qui a traversé de part en part le cœur de Marie, faisant une trajectoire de temps dans laquelle on pouvait mettre la main. Jésus a montré ça quand même, en ressuscitant d'entre les morts. Il a dit à Thomas, mets ton doigt dedans l'intérieur de mes plaies. Mets ta main, plonge-la dedans mon côté. Thomas et tes jumeaux. Ça me plaît ça. Ça m'a plu beaucoup. Ils étaient jumeaux. Ils savaient très bien ce que c'était que de se trouver deux âmes en une seule chair. Depuis la conception, les jumeaux, vous savez, ils palpitent dans les mêmes fulgurations métapsychiques et spirituelles. Et qu'est-ce que vous voulez? Ils sont dans le même chiffre génétique, biologique, magnétique, mais aussi dans leur innocence divine commune, ils connaissent et communiquent l'un à l'autre leurs propres expériences de liberté, d'innocence divine originelle, dans une seule chair, une seule extraordinaire croissance mutuelle. Pendant 9 mois, ils ont l'habitude, il a l'habitude, vous comprenez, à travers son corps, de saisir de l'intérieur du corps de l'autre, la personne de l'autre. C'est facile pour un jumeau. pour les pauvres types qui sont pas jumeaux, c'est très difficile. Pourquoi? C'est pas beau, ça? Alors, il a pénétré, il a touché les blessures du cœur de Jésus. Et là, il s'est effondré. Saint Thomas s'est effondré. Il s'est effondré. Il a fallu, j'en suis sûr, qu'on le retienne. Il s'est effondré. Il a touché Dieu. C'est le seul qui a touché la plaie. A vu que c'était Dieu. C'est Marie tout craché. Parce que dans la chair de Marie, dans l'unité sponsale de complémentarité cette fois, dans la blessure du corps de Jésus, qui est cadavérique, et vivante de la gloire de l'âme glorieuse de Jésus à travers son unité sponsale glorieuse avec Joseph, à partir de la déesse tout remplie du feu, de l'amour et de la résurrection de Jésus dans son âme. Alors, du coup, bien sûr, que Marie ne regarde que Jésus. Mais avec cette force qui vient d'en bas. Et d'en haut en même temps. Voilà les deux trames. Comme c'est fort, vous savez, ce qui s'est passé. Et alors, voilà, le suaire, c'est le deuxième témoin. C'est étonnant, hein. C'est vraiment extraordinaire, c'est étonnant. Alors oui, là, dans la blessure du cœur de Marie, dans la blessure du cœur de Jésus, qui fait que c'est la blessure du cœur cadavérique de Jésus qui est corporellement dans le cœur vivant de Marie, et si elle vit, c'est précisément à cause, grâce à cette unité sponsale glorieuse, la croix glorieuse en elle qui permet au Verbe de Dieu de faire vivre cette blessure du cœur de Marie. Elle n'est pas morte à cause de ça, c'est un miracle d'amour glorieux venu des enfers, venu du Père de Jésus, époux de l'Immaculée Conception. C'est vraiment extraordinaire. Ils sont jumeaux, il y a vraiment nouvel Adam, nouvelle Ève. Le nouvel Adam et nouvelle Ève apparaissent enfin vivants. Oh. Et alors, dans cette blessure du cœur, dans cette transverbération, c'est elle qui est témoin de la résurrection. Oui, c'est pour ça qu'on peut relire. Elle n'a pas eu besoin d'apparition, Marie. Les apparitions, c'est pour les pauvres gens comme nous. Mais pour ceux qui ont la foi, il n'y a pas d'apparition. C'est la différence entre la foi, la vie divine, et puis ça qui nous est demandé. Alors du coup, oui, dans cette blessure du cœur de Jésus cadavérique, lorsque la blessure cadavérique du corps de Jésus, qui elle est inscrite corporellement dans le corps vivant de Marie, lorsque cette blessure cadavérique du corps cadavérique de Jésus revit, c'est à partir de la vie de plénitude de grâce adoptante qui vit de la blessure du corps incarné corporel dans le cœur de Marie, que Jésus ressuscite, elle est médiatrice de la résurrection. C'est impossible autrement. Et il y a eu une. Pourquoi ça s'est passé à cette heure-là, hein? Marie, il faut que ça tout de suite, quoi. Dès qu'apparaissent les toutes premières lueurs de l'aurore, quoi. Microscopique, aussitôt. Marie a hâté l'heure de la résurrection, ça c'est évident, c'est trop clair, il ressuscite donc le troisième jour. Et elle est le témoin de la résurrection. Du moins, c'est sa transverbération incarnée qui est le témoin de la résurrection. Et le deuxième témoin de la résurrection, c'est le corps de Jésus. Et donc, il y a deux témoins pour la résurrection. C'est le corps relevé de Jésus et c'est le cœur glorifié de Marie. Tout en restant en elle, puisqu'elle est encore dans un principe de grâce adaptante pour tout l'univers et pour tous les temps, pressée par le mystère de la croix. Dans toutes les autres instances et appartements de son âme et de tous les espaces d'habitation de sa communion de compassion et qui contraignent la gloire de la résurrection dans les stricts appartements de cette blessure du cœur, de sa transverbération désormais glorieuse. Voilà pourquoi Adrienne exprime la chose de cette manière. Nous qui sommes chrétiens, c'est ça qu'on doit vivre. C'est ce que le baptême nous permet de vivre. On est marqué par la blessure du cœur. C'est trop magnifique. Alors, égercis, anastasis. Égercis, le premier témoin de la résurrection, c'est la transverbération du cœur de Marie. Égercis, c'est l'ange qui le dit. Et quand c'est l'apôtre, c'est Anastasis. Quand c'est Jésus, Anastasis. Quand c'est encore l'ange aussi, Anastasis trois fois. Et ça y est, c'était quand même... C'est quoi la différence entre les deux? Et bien, Égercis, c'est tout simplement que le petit cosmos que constitue le corps de Jésus, ressuscité d'entre les morts, dans l'humanité intégrale, avec la nouvelle Ève commencée, peut habiter et traverser effectivement tous les temps, tous les lieux, tous les éléments de matière. Il est ressuscité d'entre les morts. Faut pas s'arrêter là, ne me touche pas, je ne suis pas encore remonté vers mon Père. Il y a aussi l'anastasis. Il n'y a pas que l'égercis. Une fois que Jésus a atteint tous les confins glorieux en les traversant, c'est pour les traverser, la preuve, ils ne sont pas glorifiés. Regardez-moi, je suis toujours aussi terne. Traversé seulement, il a laissé les traces des énergies de sa résurrection, comme dit Grégoire Palamas, les traces glorieuses du feu de sa résurrection, feu métaphysique et surnaturel, dans tous les éléments substantiels des particules de matière, de temps et de lieu, ça oui, il a traversé, et puis il a ramassé ainsi en lui. Dans l'immensité de sa divinité, puisqu'il sait, il est devenu Dieu. Il a ramassé tous ces éléments traversés du cosmos et les a ramenés en lui, en sa propre substance, tout en laissant sa substance eucharistique sur la terre. Voilà pourquoi il a donné la communion. Et il est rentré à l'intérieur de Dieu, faisant exploser toutes les limites du cosmos, faisant exploser toutes les limites de l'univers. Son corps physique, son corps matériel. On peut toucher ce corps-là qui a fait exploser toutes les limites du temps et du cosmos. Il a été jusqu'aux limites du temps et du cosmos, Égercis. Il l'a traversé, Égercis. Il l'a dépassé. Et c'est corporellement qu'il a emporté l'ensemble des temps, de tous les lieux, dans son corps. Hein, et qu'il est rentré et qu'il s'est fait Dieu corporellement. Tandis que Dieu s'était fait chair, charnellement, dans le premier mystère joyeux. Et Anastasis, il est rentré dans, corporellement, dans toute l'intériorité, s'y assimilant parfaitement et complètement de Dieu avant la création du monde. Hein, Anastasis, c'est tout à fait autre chose. Laissant dans le cosmos, pour ceux qui sont dans le régime du mystère de compassion, du baptême, et de la grande transformation de l'univers pour le corps mystique vivant et anti-vivant de Jésus vivant, qu'il puisse y avoir une naissance qui vienne de cette introduction fameuse. Il a emporté quand même avec lui aussi la plaie glorieuse et immaculée de la transverbération du cœur de Marie avec lui au ciel, l'inscrivant dans le livre de vie de l'Immaculée Conception, établissant ainsi un nouveau trône pour la naissance glorieuse de la Jérusalem spirituelle et de la Jérusalem glorieuse à partir du ciel dans la terre de la foi. Ayant ainsi traversé Annas et Garcis, s'étant été ainsi établi dans la gloire de la résurrection pour la conception de l'Église, de la Jérusalem glorieuse à partir de la Jérusalem spirituelle de la foi, il a laissé dans le cosmos les traces de sa résurrection. Mais lui est dans l'anastasis. Il n'est plus dans l'exercice. C'est fondamental. C'est essentiel de comprendre ça. Parce que si je prends du Christ, ce qu'il y a dans le cosmos, et qui vient de la résurrection, je me coupe de l'anastase. Et donc je me coupe de l'anastase incarnée et glorieuse et divine. Je me coupe des sacrements. Et c'est vrai, si je vis que du Christ cosmique, et que je prends des choses qui viennent du Christ ressuscité, hein, qui ne viennent pas de quelqu'un d'autre, je me coupe du corps mystique glorieux, du Dieu vivant, et de la Jérusalem céleste. Oh, la ruse de Dieu pour garder la liberté aux enfants de Dieu de choisir Dieu ou leur propre gloire. Ils ont à leur disposition toute la gloire de la résurrection dans le cosmos pour eux, s'ils veulent, et se débarrasser de Dieu. La nouvelle tentation est arrivée, celle de la fin des temps. Exercice, anastasis. Je pense que vous comprenez la différence entre l'exercice et l'anastasis. C'est prodigieusement intéressant, important. Le corps de Jésus glorifié est rentré dans l'anastase. Le corps de Marie est témoin de la résurrection. Le travail de l'Église a commencé, tissant du ciel du trône de l'unité sponsale glorieuse de Jésus, nouvel Adam et nouvelle Ève, une nouvelle maternité de la foi de Marie. Autant l'Église a été conçue à la blessure du cœur, cinquième mystère douloureux, nous l'avons vu ça, autant la Jérusalem glorieuse a été conçue à l'heure de la résurrection. Jésus a donné, il a dit, venez mes enfants, et Pierre, du coup, met un vêtement pour cacher sa nudité honteuse, s'est précipité dans l'eau, 100 mètres, il a couru, malheureusement cette fois-ci il n'a pas marché sur les eaux, il devait y avoir de la boue, et, enfin, je sais pas, enfin, je suis sûr qu'il n'a pas fait gaffe. Ah bon. On a ramené les 153 poissons. Jésus faisait là, dans cette. Il y avait du feu, il y avait un poisson dessus qui grillait et du pain. C'est extraordinaire. Ce poisson, qu'est-ce qu'il représente? Et donc, il donne et il leur donne à manger du poisson et il leur donne le pain. Le pain, c'est l'Eucharistie qui est représenté dans le pain venu du ciel. On est donc bien d'accord, c'est trop clair. Les 153 poissons sont là, on les compte. Ils sont 153. C'est quand même quelque chose, ça. Hein? Et ce poisson qui est sous le feu ardent de la résurrection représente l'Église qui n'est pas de la terre. Les 153 poissons, c'est ceux qui, de la terre, vont vers l'Église qui n'est pas de la terre. Et donc, quand il donne à manger de ce poisson unique, qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il donne une communion spéciale aux apôtres qui sont là. Il leur donne une communion, non seulement à l'Eucharistie, mais il établit Pierre et les apôtres, régisseurs et maîtres et rois, prêtres éternels, et lui à travers eux, prêtre éternel, de la Jérusalem glorieuse, de la Jérusalem flamboyante du purgatoire, désormais transformée par lui, en même temps que de la Jérusalem spirituelle des 153 poissons, de la foi. Ainsi se constitue une communion et la constitution par communion dans le mystère de la résurrection d'un nouveau corps entier de Jésus entier. Et Jésus vivant. Et c'est Marie qui en est la source. C'est les apôtres qui en sont les principes d'unité. Et les principes de croissance sont dans les sacrements, dans l'eau, le sang, et dans le pain. Voilà pourquoi je suis convaincu que Jésus a donné, a célébré une nouvelle fois la transsubstantiation de son corps et de son sang, lui une fois glorifié, pas encore remonté vers le Père. Clair quoi. Et pendant 40 jours, Jésus va marcher avec eux. Pendant 40 jours, Jésus va circuler de la Jérusalem glorieuse à la Jérusalem flamboyante d'amour et d'immaculation et glorieuse, de la croix glorieuse, de l'innocence triomphante du Christ dans la crucifixion de la mort et de la voir dans toute pure immaculée de ceux qui adhèrent et dans lesquels coulent les torrents de la doctrine immaculée de l'Église. La prédication infaillible de l'Immaculée Conception par la bouche des apôtres. Et il circule, il circule, il circule, il circule pendant 40 jours avant de monter sous leurs yeux. Et c'est ces 40 jours de purification où tous les espaces intérieurs saisis par la victoire de la mort, du péché, etc. sont Jésus circule avec Marie jusqu'à la fin du monde pendant ces 40 jours. Marie est comblée. Ce sont des abîmes d'allégresse qui circule à l'intérieur de la blessure de la transverbération glorieuse de Marie. Et elle circule désormais librement du livre de la prédestination incréée à sa maternité désormais glorieuse dans son cœur transverbéré, à sa compassion par rapport à l'Église militante qui doit vivre jusqu'au bout de la crucifixion du Seigneur, jusqu'à la transverbération et le mariage spirituel, tout en étant flambante de la charité et de l'espérance. Du poisson qui est sous la braise ardente, du feu, de la croix glorieuse, de la résurrection. Vous voyez, ça, il y a quelque chose à chaque fois à comprendre dans chaque parole, dans chaque agada de la résurrection, pour voir comment Marie s'inscrit derrière chacune. Il y a dans l'écriture sept grandes apparitions. C'est normal parce que dans la résurrection, Jésus reprend toute l'humanité dans toutes ses dimensions. Toute la nature de la création. Oui, il leur reproche à un de ne pas croire, si lentement, et leur dit de transmettre la résurrection à toute la création. C'est, je trouve ça extraordinaire, ça. Il leur dit transmettre quoi? Transmettre la résurrection à toute la création. Nous devons participer activement à l'exercice avant qu'il y ait l'anastasis universelle et finale. C'est quelque chose de très fort, vous voyez. C'est ce que Marie vit pendant ces 40 jours. Et tant que Marie n'est pas inscrite et établie dans ce lien entre l'exercice et l'anastasis, il ne montera pas dans l'ascension. Il faut ces 40 jours de la traversée de l'Égypte à la terre promise, du livre de vie, de la conception, de la Jérusalem glorieuse, dans la foi de Marie. C'est pas que des mots qui sont prononcés, hein. C'est pas que la beauté, la splendeur d'une grande liturgie sacrale, etc. Non, et c'est tout simple. C'est tout simple. Si on est blessé par le mal, si on est blessé par la mort, si on est blessé par la nuit, heureux sommes-nous. Si on est blessé dans cette blessure, dans cette obscurité, dans cette nuit absolue, de la mort, du mal qui est en nous et du péché. Heureux sommes-nous. si nous n'en sommes pas blessés, malheur à nous. Mais si nous en sommes blessés, heureux sommes-nous. Nous sommes stabilisés dans cette blessure qui est celle de l'attente, de la foi. Et il faut s'y déposer, s'y reposer tranquillement pour que le travail de la transverbération de notre chair, de notre sang et de notre cœur palpitant d'espérance commence à se réaliser. Et qu'une fois que nous sommes... Voyez, regardez quand on s'endort. Dites ça à vos enfants. Quand tu t'endors, ferme les yeux, ferme la lumière. Et tu verras. Il faut que tu vois Jésus. C'est Jésus qu'il faut voir. Il n'y a plus que Jésus. Dans cette obscurité, dans cette nuit, qui jaillit dedans, il vient vers toi, il rentre en toi, il est là. Et il te met dans le repos parfait. Il faut s'habituer à vivre de la résurrection en s'endormant. Regarde, si tu as la nuit comme ça, enfonce-toi dans la nuit. Ferme bien les yeux. Et dans la nuit, tu rentres dans le cœur de Jésus ouvert. Tu rentres dans la nuit. Si tu es blessé, si tu t'inscris dedans cette nuit profonde, heureux es-tu. Si tu es blessé par le mal, la mort, et si tu vides cette nuit obscure qu'elle produit, heureux es-tu. Enfonce-toi dans la nuit. Et découvre dedans cette nuit l'intérieur du cœur de Jésus. Repose-toi là. Dans le cœur mort de Jésus, toute obscure, toute nuit, dans ce corps de Jésus, il y a de l'eau, il y a la paix, il y a la mort du péché, c'est ça l'eau, il y a le sang, ah, il y a le sang, il y a la présence de la vie venue du ciel dans le corps humain. Et à la présence de Marie qui te donne sa vie intérieure. Et dedans encore, il y a l'Esprit Saint. Jésus souffle sur eux et il dit, recevez l'Esprit Saint. Quand il ressuscita d'entre les morts, il se trouva au milieu des 11. Il se pencha vers eux et il souffla sur eux. Et il dit, recevez l'Esprit Saint. Alors enfonce-toi dans la nuit et dans la blessure du cœur de Jésus. Rejoins le sang tout palpitant, immaculé de l'Immaculée Conception. Et entends, vois le souffle intérieur de Jésus dans ton cœur blessé. Soufflez l'Esprit Saint. Alors tu es dans la disposition du premier mystère glorieux. La lumière du Saint-Esprit va fulgurer dans ton sommeil et te faire vivre du Shalom Imak. Voilà pourquoi Jésus dit paix à vous. Paix sur paix. Et l'Esprit Saint est là et cette paix va surabonder, 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 surabonder au ciel, dès cette terre, dedans toi. Par la lumière, c'est naturel de la foi. Et je vais vivre ça tranquillement. Je ne vais pas faire que de la théologie, de la méditation. Je vais donner l'autorisation au mystère de la résurrection de réaliser cette immense transformation de toute la création du monde. Et je vais me laisser assimiler et laisser mon corps devenir Dieu à l'intérieur du Père, comme Saint Joseph s'est laissé faire pour ressusciter d'entre les morts. Je vais apprendre à vivre surnaturellement de la résurrection. Il est ressuscité et c'est comme ça.